Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
La dernière fois, nous nous sommes penchés sur quelques proverbes montrant comment entretenir de bonnes relations avec nos voisins. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet similaire en parlant de l'amitié dans les proverbes. Tous nous éprouvons le besoin d'avoir des amis. L'amitié est un cadeau fort précieux. Certains peut-être ont été déçus par ce qu'ils croyaient être de véritables amis et ont vécu par là même une expérience négative. Mon invité Alain a sélectionné les proverbes parlant de l'amitié et il va nous faire part de ses découvertes. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui ont pu être déçues par ceux qu'elles croyaient être de véritables amis. Suite à votre remarque, je voudrais que nous écoutions les deux proverbes suivants. D'abord au chapitre 19, verset 4. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Et ensuite, au chapitre 19, verset 6. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important, et tous sont amis de qui fait des cadeaux.
Et en quoi ces proverbes décrivent-ils une amitié trompeuse ?
Ils nous mettent en garde contre le fait que certaines personnes cherchent la compagnie d'une autre, pas essentiellement parce qu'elles apprécient cette personne, mais parce qu'elles désirent en tirer un avantage personnel. Ces proverbes évoquent souvent les hommes riches ou puissants qui dispensent des faveurs et offrent des cadeaux. Beaucoup peuvent les fréquenter par intérêt, espérant recevoir un avancement ou un privilège, par exemple. Toutefois, si celui qui est riche perdait ses biens ou sa position, il constaterait rapidement que beaucoup de ses prétendus amis l'abandonneraient.
Ainsi, les proverbes prouvent que le fait de fréquenter une personne, dans l'espoir d'en tirer un profit, n'est pas le résultat d'une véritable amitié.
C'est exact. Selon les proverbes, le véritable ami est fidèle, constant et désintéressé. Écoutez le proverbe suivant trouvé au chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Et maintenant au chapitre 17, verset 17. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère.
Le premier de ces proverbes semble vouloir dire qu'il est préférable d'être entouré de peu, mais de véritables amis, plutôt que de beaucoup, sans toutefois nouer une relation forte avec eux.
Oui. On peut dire que les proverbes louent la qualité de l'amitié plus que la quantité des amis. Comme je l'ai déjà précisé, un véritable ami est constant. Il demeure fidèle, même si l'on passe par des épreuves et des difficultés. Les bons amis peuvent d'ailleurs s'avérer être plus proches, plus constants et plus compréhensifs que les membres de notre propre famille.
Et c'est justement lors des moments difficiles que nous avons le plus besoin de nos amis.
Oui, et un véritable ami cherchera à apporter son aide et son soutien au creuset même de l'épreuve. Il sera prêt à donner sa disponibilité afin de secourir celui qu'il aime. Alors que l'ami qui n'est pas sincère, ne trouvant plus son intérêt, partira. Les proverbes nous encouragent à rester loyaux envers nos amis, comme d'ailleurs envers les amis de nos familles. Écoutez pour cela le verset 10 trouvé au chapitre 27. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père. Ce dernier proverbe nous apporte une perspective différente de celle des autres.
Pouvez-vous vous expliquer ?
Oui. Jusqu'à présent, nous avons surtout expliqué qu'il faut être prudent quant au choix de nos amitiés, et les proverbes nous aident à discerner tout ce qui fait un bon ami de ce qui n'en fait pas. Cependant, le dernier proverbe évoqué nous concerne plus directement. Il dit « Ne délaisse pas ton ami ». Il nous exhorte à notre tour à être de bons amis. Les qualités liées à l'amitié évoquées tout à l'heure doivent se trouver dans nos cœurs. Si nous voulons avoir de bons amis, nous devons commencer par être nous-mêmes un véritable ami.
Merci Alain. Maintenant, j'aimerais vous demander de nous citer tout ce qu'une réelle amitié peut procurer. Les proverbes disent-ils quelque chose à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Écoutez les deux proverbes suivants. D'abord, au chapitre 27, verset 9, nous lisons « L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Et ensuite, chapitre 27, verset 17, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Pour moi, ces proverbes évoquent au moins deux facteurs positifs qui sont le résultat d'une bonne amitié.
Et quels sont-ils ?
Tout d'abord, Dieu a créé l'homme pour bénéficier, entre autres, des relations humaines. C'est pourquoi nous éprouvons le besoin de passer du temps avec nos semblables. Une véritable amitié est source de bien-être et de bonheur. Passer du temps avec un ami procure de la joie. De même, lorsque l'on se sent découragé et abattu, les amis sont là pour apporter des paroles de réconfort. Leur attention nous touche et nous relève, leur sollicitude nous redonne du courage. Enfin, le dernier proverbe lu parle de l'homme dont le caractère s'affine au contact de ses amis.
Que voulez-vous dire par là ?
Au contact de nos amis, notre esprit s'élargit, car auprès d'eux nous apprenons des choses. Un ami peut partager son savoir, ses points de vue, son expérience, et ainsi nous enrichir. Il peut également nous donner de bons conseils ou nous apporter son aide lorsqu'un problème doit être résolu. Et bien sûr, à notre tour, nous contribuons au bien-être de nos amis en leur donnant le meilleur de nous-mêmes.
Merci Alain. Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous reprendrons nos discussions sur l'amitié la prochaine fois. Je voudrais simplement conclure en disant, quand nous accordons des amitiés avec certaines personnes, Dieu nous fait un cadeau merveilleux. Nous devons donc chercher à être de bons amis et veiller aux amitiés que Dieu nous donne.
Yann va tout de suite introduire notre méditation biblique.
Je suis de nouveau avec Flavien et ensemble nous poursuivons nos réflexions sur ce que j'appelle la parabole des deux fils perdus. Écoutons d'abord le début de cette histoire racontée par Jésus afin de nous faire réfléchir sur d'importantes vérités spirituelles.
Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage ». Celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait.
Lors des émissions précédentes, nous avons vu à quel point le jeune homme de la parabole offense profondément son père, en lui demandant sa part d'héritage et en la vendant par la suite. Il traite à son père comme si celui-ci était déjà mort. Jésus, en racontant cette histoire, voulait nous faire réfléchir sur notre propre attitude envers Dieu, car beaucoup mènent leur vie comme si Dieu était mort, comme s'il n'existait pas. Oh, une telle conduite offense profondément Dieu. Flavien, dans le texte lu aujourd'hui, nous apprenons que ce jeune homme partit de chez lui avec une importante somme d'argent. Que se passe-t-il par la suite ?
Eh bien, nous apprenons qu'il gaspilla tout son argent en menant un grand train de vie. Apparemment, il n'a pas cherché à faire fructifier ses biens afin de pouvoir bénéficier d'une rente, par exemple. Au contraire, il vécut bien au-delà de ses moyens et le jour vint où il manqua de tout.
Il est évident que cet homme a manqué de sagesse en dilapidant tout son argent. Mais je ne pense pas que la leçon que Jésus veut nous faire passer concerne la gestion de nos biens. Quelle leçon spirituelle nous enseigne-t-il donc ici ?
La voici. Le péché consiste non seulement en un profond manque de respect envers Dieu, mais aussi à destiner les bonnes choses que notre Père Céleste nous donne à un mauvais usage. Ce jeune homme, par exemple, avait reçu une importante somme d'argent de son père. Il aurait pu alors acheter sa propre ferme, monter sa propre entreprise, ou établir son propre atelier. Il aurait pu aussi faire le bien en créant une école ou un hôpital. Mais non, il gaspilla tout.
Mais pouvez-vous nous expliquer en quoi cette leçon nous concerne aujourd'hui ?
Prenons pour exemple celui du couteau. Nous pourrions nous en servir pour sculpter des œuvres d'art, des chaises, des meubles et bien d'autres objets utiles, comme nous pourrions l'utiliser pour accomplir le mal, en blessant ou en poignardant une personne. Ainsi, tout objet peut être destiné soit à un bon usage, soit à un mauvais. Il en est de même pour notre langue, notre façon de communiquer avec les autres, notre intelligence, la sexualité, notre argent, nos biens et que sais-je encore. Dieu est notre Créateur et il nous a donné tellement de bonnes choses. Malheureusement, nous les destinons trop souvent à un mauvais usage. Dieu nous a donné la vie, mais que faisons-nous avec ce beau cadeau? Trop souvent, nous gaspillons notre temps, comme notre énergie, pour accomplir le mal et attrister Dieu. Or, Dieu nous a créés pour accomplir le bien et faire sa volonté.
Cette parabole parle donc du péché. Nous apprend-elle aussi quelque chose sur les conséquences du péché?
Oui, bien sûr. Ce jeune homme, en affirmant de la sorte son autonomie, désirait mener joyeuse vie. Par son action, il a réalisé tout ce qu'il voulait et peut-être que pendant un certain temps, il a été heureux. Toutefois, son rêve a fini par se transformer en cauchemar. Son bonheur n'a pas duré et à la fin du texte lu aujourd'hui, nous le retrouvons dans un piteux état. Il accomplit un travail pitoyable, vit sans amis et a terriblement faim.
Oui, son travail consistait justement à nourrir les porcs, ce qui devait être humiliant pour un juif.
Effectivement, oui, il est vrai que les juifs considéraient les porcs comme étant des animaux impurs. Ainsi, les personnes qui écoutaient Jésus ont dû être très choquées d'apprendre que ce garçon avait accepté un tel travail. Ce détail leur prouvait qu'il s'enfonçait toujours plus dans le mal et dans le malheur. Il vivait sans relation aucune avec Dieu et par là même, il se privait de ses promesses et de sa miséricorde.
Et qu'est-ce que Jésus veut que nous retirions de son expérience malheureuse?
Un avertissement. Le péché revêt une apparence attrayante, mais soyez-en avertis. Si vous vous y adonnez, vous risquerez d'être rapidement déçus. Si vous pensez qu'en pratiquant le péché, c'est-à-dire en trompant les autres par exemple, en mentant, en volant, etc., si vous pensez donc résoudre certains de vos problèmes ou atteindre le bonheur, sachez que votre espoir se changera tôt ou tard en cauchemar. Le péché engendre un cercle vicieux de mal et de malheur, et il nous prive des bénédictions de Dieu. Le péché nous rend impurs devant l'Éternel. Il est la cause de notre rupture de relation avec notre Père Céleste. Tant que nous vivons dans le péché, nous nous privons de la présence de Dieu, de ses promesses et de sa grâce.
N'y a-t-il donc aucune lueur d'espoir pour ce jeune?
Lors de notre prochaine émission, nous découvrirons comment il va enfin se tourner vers Dieu et échapper à sa terrible condition. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que si, à cause de notre inconduite, nous sommes tombés dans le malheur, l'espoir peut toujours renaître.
Pour en savoir plus, écoutez notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.